France Musique.
Classique Info, Sofia Anastasio. Bonjour Sofia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec la disparition du ténor italien Marcello Giordani.
Chanteur originaire de Sicile nous a quitté samedi à l'âge de 56 ans, victime d'un infarctus. Il laisse derrière lui une très belle carrière internationale avec 241 représentations au Metropolitan Opera de New York. Sa mort a soulevé beaucoup d'émotions. Sonia Yoncheva, Angela Gheorghiu ou encore René Fleming lui ont rendu hommage.
Et ce week-end, une autre disparition a suscité beaucoup de réactions dans le monde de la musique, celle du batteur Ginger Baker.
Co-fondateur du mythique groupe de rock Cream, il est mort hier à l'âge de 80 ans. Et s'il est surtout connu pour sa carrière dans le rock, il avait pourtant toujours insisté pour être présenté comme un musicien de jazz, rappelle le journal Le Monde. Le jazz, c'était la musique de ses débuts, celle vers laquelle il revenait régulièrement avec ses explorations des polyrythmies des musiques africaines. Alex Dutille lui rendra hommage ce soir dans Open Jazz sur France Musique.
Et on reparle ce matin de Placido Domingo, qui a finalement bien été décoré du Premio Batuta.
La semaine dernière, les organisateurs de ce prix mexicain avaient pourtant annoncé ne plus vouloir décerner la récompense au ténor en raison des accusations de harcèlement sexuel qui pèsent sur lui. Mais finalement, il a bien été distingué au cours de la cérémonie samedi dernier. Il a adressé un message de remerciement qui a été diffusé en vidéo pendant la soirée. Comme chaque lundi, c'est l'heure du billet écho d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine.
Bonjour Sophia, bonjour à tous.
Vous intéressez aujourd'hui au Metropolitan Opera de New York, auquel France Musique consacre sa journée. Quel est, Antoine, le modèle économique de cette institution?
Le premier chiffre à retenir ce matin, et vous savez, Sophia, combien j'aime les chiffres, c'est 300 millions de dollars. C'est le budget annuel du Metropolitan Opera. Contrairement aux maisons d'opéra européennes, ce n'est pas la puissance publique qui finance directement la structure. Le Met doit miser sur ses ressources propres, à commencer par la philanthropie. Mais attention, il y a quand même une aide publique indirecte, puisque les mécènes bénéficient aux États-Unis d'un système permettant, en certains cas, jusqu'à 100% de déduction fiscale. Le directeur du Met, Peter Gelb, que vous recevez, Jean-Baptiste, dans quelques instants, recherche toujours plus de mécènes et surtout, il cherche un très gros sponsor. Avis aux intéressés, car si ce mécène met une très grosse somme, il pourrait voir son nom apposé sur le bâtiment, comme le Carnegie Hall, financé au 19e siècle par Andrew Carnegie, ou plus récemment le David Geffen Hall, la salle de concert du Philharmonique de New York, juste à côté du Met. C'est la pratique du naming. Ce serait pas mal une salle Sofia Anastasio. Qu'en dites-vous?
Mais c'est mon rêve. Et que représente, Antoine, la billetterie dans le fonctionnement économique?
C'est 30% du budget, et c'est là que le bas blesse, car le Met n'est rempli en général qu'au 2/3. Alors bien sûr, c'est une jauge importante, allez-vous me dire, 3800 places. Mais l'Opéra de Paris compte bien deux salles d'opéra, Garnier et Bastille.
Comment expliquez-vous cela, Antoine?
La programmation de Peter Gelb tente de trouver une voie, un entre-deux qui n'est pas simple. À la fois garder les productions traditionnelles, pour le public plutôt conservateur, tout en ouvrant sur des ouvrages plus contemporains, pour toucher les nouvelles générations. La nomination de Yannick Nézet-Séguin comme directeur musical peut en cela être un bon levier. Le paradoxe, c'est qu'en même temps, le Met a du mal à remplir sa salle, mais remplit les salles de cinéma dans le monde entier.
Et est-ce que la diffusion dans les cinémas vide les salles d'opéra?
Peter Gelb, le patron du Met, conteste cet argument, hormis, dit-il, pour un public très âgé. En tout cas, la diffusion dans les salles de cinéma, c'est devenu une machine à cash pour le Met. Aux États-Unis, sur le prix du billet de cinéma, 50% va au cinéma et 50% au Met. C'est pour cela que d'autres institutions ont suivi, comme l'Opéra de Paris ou le Bolshoï. Mais le Met, qui a été le premier en 2006 à se lancer sur le créneau, fait de loin la course en tête et a ainsi imposé son nom comme une marque mondiale, un véritable exemple de branding, de marquage commercial dans le monde de la culture.
Merci beaucoup Antoine pour votre chronique en partenariat avec La Lettre du Musicien. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Une page tourne, Sophia, pour le quatuor Hermès.
C'est l'ensemble lui-même qui l'écrit ainsi sur sa page Facebook. Après plus de 11 ans, son violoncelliste fondateur Anthony Condo quitte le quatuor pour mener à bien d'autres projets artistiques et personnels. L'ensemble accueille avec joie un nouveau musicien en la personne du violoncelliste Yann Levionnois.
Et on termine avec un carnet rose, oui. La famille de Sonia Yoncheva qui accueille une nouvelle petite fille.
Nous sommes enfin quatre, écrit la soprano bulgare, qui a donc donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille qui répond, Jean-Baptiste, à un très beau prénom, celui de Sophia.
Oh, quel bon choix, magnifique. Merci Sophia Anastasio. À demain. Classique Info, c'est aussi sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.